Histoire salée, le podcast mer de France Bleu Cotentin.
Une double explosion, un navire militaire qui sombre en quelques minutes. 5 morts, 17 blessés. Nous sommes le 30 avril 1997 au large de Cherbourg. La mission des 22 membres d'équipage de la Gabar, la Fidèle, un navire de la marine nationale chargé de détruire en pleine mer un stock de grenades déclassées, vient de tourner au drame. Comment en est-on arrivé là? Qui est responsable? Comment les rescapés et les proches des victimes ont pu se reconstruire au terme d'années de procédures judiciaires? Je suis Benoît Martin et dans ce nouvel épisode du podcast Histoire salée consacré aux histoires de mer, je vous emmène à la rencontre des seuls à pouvoir apporter des réponses, les protagonistes d'une affaire qui a durablement marqué les esprits. 25 ans après le drame, si les souvenirs sont toujours aussi douloureux pour les rescapés et les proches des victimes, l'histoire de la Fidèle ne parle plus à grand monde. Malgré une stèle hommage à quelques kilomètres de Cherbourg, c'est là que débute ce podcast. Nous sommes au Cap Lévis. L'endroit est magnifique avec son phare, le sentier des douaniers. Et au détour d'un chemin, on tombe sur la stèle à la mémoire des victimes du drame de la Fidèle. Ce sont deux blocs de granit triangulaires. Et si on fait le tour, eh bien on trouve une plaque avec les noms des 5 morts victimes de l'explosion. Michel Damecourt, Didier Gauguin, Jean Marest, Guy Morsaline et Christian Pilon. Des noms, mais pas plus d'informations. En me replongeant dans les articles de presse de l'époque et les chroniques des suites judiciaires de l'affaire, je retrouve l'identité de plusieurs membres d'équipage. Parmi eux, l'un des plus jeunes matelots à bord le jour du drame. Il avait 22 ans et il a trouvé la force de s'en sortir. C'est chez lui que je me rends, à Kerqueville, à l'ouest de Cherbourg. Je presse le pas, je suis en retard.
Hello.
Allô, bonjour. Benoît Martin de France Bleu.
Oui.
Stéphane Marie.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Ok, bah écoutez, j'arrive. Hein. Je me suis garé à la saline, donc je termine à pied pour profiter des embruns.
D'accord.
A tout de suite.
Pas de soucis, je vous attends.
Une maison face à la mer, au bord de la rade de Cherbourg. Je suis arrivé chez Stéphane Marie.
Enchanté.
Enchanté.
Bah allez-y, rentrez.
Allez, merci.
Je vous embête si on se met dans la cuisine?
Aucun souci.
Vous êtes aux premières loges, là, vous?
Ah oui, la première loge dans toutes circonstances. Hein.
Quand il y a la tempête, là, ça va.
Quand c'est la tempête, ça y va. Quand il fait beau, il y a les voiliers. Non, bien.
Vous arborez un polo marine nationale et vous êtes toujours dans la marine aujourd'hui. Vous faites quoi aujourd'hui dans la marine?
Je suis fonctionnaire du ministère de la Défense depuis 2003. Et je travaille à l'école des fourriers, je suis à l'hébergement, comme on appelle ça. Je travaille pour la base de soutien.
Donc plus de bateaux pour vous aujourd'hui?
Plus de bateaux pour moi. Ce n'est plus d'actualité.
Alors, en 1997, vous aviez 22 ans?
C'est ça. J'ai été affecté sur la Gabar la Fidèle du premier jour après mes classes, comme cuisinier. Et au moment de l'explosion, je suis dans le carré officier. Donc
vous remontez à l'air libre?
À l'air libre sur le pont. À ce moment-là, je vois le feu sur le bateau, je vois les grenades qui restent, et je me dis que tout ça va nous vulgairement nous péter au visage. Et je regarde sur la côte, c'était là où habitaient mes ex-beaux-parents, et en me disant, bon bah voilà, ça, t'as 22 ans, mais c'est là que ça s'arrête. Et ça, je me le suis dit à haute voix.
Le matelot Stéphane Marie va cependant réagir, l'instinct de survie. Avec d'autres membres d'équipage, ils rejoignent le point le plus haut du bateau, désormais à la verticale.
Quand on a vu le bateau qui continuait à s'enfoncer très vite, on s'est lancé sur la coque comme sur un toboggan.
Pour plonger.
Pour aller à l'eau. Et je peux vous dire, c'est qu'elle était froide. Nous sommes partis du haut du bateau avec plusieurs personnes, dont une personne qui ne savait pas nager. Et il nous disait comme ça, vous me laissez pas les gars. Et non, on a essayé de pas le laisser, mais... Une fois dans l'eau, on a réussi à trouver quelques planches, mais il n'y avait plus rien. À la surface, moi je me rappelle de quelques mares de feu, d'huile qui avait dû prendre feu. Mais sinon, au niveau matériaux pour pouvoir s'aider à flotter, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien du tout. Hein. Mmh. Alors moi, j'ai réussi à rejoindre un radeau de sauvetage que l'on avait réussi à percuter, mais qui était très abîmé, puisqu'il était en partie détruit. Hein. Et dedans, il y avait déjà quelqu'un. Je suis arrivé à ce radeau, et... Je pense que s'il ne s'était rien passé du genre explosion sous-marine, je n'aurais pas eu la force de me hisser à bord du bateau, quoi, et du radeau de sauvetage qui restait. C'est là où on s'est réfugié à 3 ou 4, 3 personnes sérieusement blessées, je fais partie de ceux qui étaient le moins blessés. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. Puis psychologiquement, c'est le souvenir qui restera, évidemment. Il y a des images que l'on ne peut pas oublier, mais je vis avec.
Deux violentes explosions à quelques minutes d'intervalle. Un navire militaire qui sombre à 10 milles du littoral alors que 16 soldats et 6 pyrotechniciens se trouvaient à son bord. Je ressors de chez Stéphane Marie en essayant de me mettre à la place de ces hommes dont certains ont trouvé la mort, tandis que d'autres garderont à vie le souvenir de ces minutes tragiques. Mais comment cette mission a-t-elle viré au drame ? Un autre survivant pourrait me renseigner. Marcel Laurence était le commandant de la Fidèle à l'époque. Aujourd'hui à la retraite à Saint-Vallaoulx, il m'accueille chez lui dans ce port du Cotentin. À l'époque du drame, le major Laurence avait 51 ans. Il en a 76 aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous avez là ?
En voyant ces classeurs dans lesquels sont méticuleusement consignés et conservés les documents en lien avec l'affaire, j'imagine à l'époque un commandant rigoureux, respectueux des règles et consignes. Ce que semble aussi indiquer son récit des événements.
10 minutes après le début du grenadage, il y a eu une grosse explosion sur la plage arrière. Le pont supérieur était relevé, recourbé.
Du fait de l'explosion ?
Du fait de l'explosion, il y avait de la fumée noire. Et là, mon second m'a indiqué qu'il y avait un gros trou sur bâbord et qu'on était en train de couler. Tout ça, ça a été rapide. J'ai transmis le SOS par VHF et le MEDE par radio. Ensuite, j'ai ordonné l'évacuation. Et puis, le bateau est parti. Comme je dis, le bateau m'a coulé sous les pieds. C'est-à-dire que je n'ai pas eu à sauter à l'eau.
Tout est allé très vite. En quelques minutes, les rescapés se retrouvent à l'eau ou à bord de 3 canots de sauvetage. C'est un de ces canots qui arrive finalement à rejoindre le major Laurence. À ce moment-là, impossible pour lui d'avoir une idée précise du bilan humain du drame. Et ce n'est pas fini.
Lorsque le bateau a été à une certaine profondeur, et pas très loin de nous, les grenades entreposées sur la plage avant ont explosé. Si bien que on s'est retrouvé avec une deuxième explosion sous-marine, plus une trombe d'eau qui s'est abattue sur nous. Moi, je me préoccupais de la météo, parce que je savais qu'à bord, j'allais embarquer à bord de la Dabar, des gens de la pyrotechnie qui n'étaient pas des marins. Ce que je redoutais, c'est qu'une grenade tombe sur le pont et fasse exploser. C'est peut-être ce qui s'est passé. On ne sait pas. On ne le saura jamais.
La première explosion est intervenue à 10h30. Elle a été si puissante qu'on l'a entendue sur toute la côte nord-est du Cotentin et jusqu'à Cherbourg. On ne le sait pas encore, mais 5 hommes sont décédés, dont 3 jamais retrouvés. 17 autres ont été blessés. La Fidèle gît désormais au fond de la mer, fin tragique pour ce navire. Un bateau de 43 mètres de long et 10 de large, armé en 1969 pour effectuer des manœuvres de manutention. Mais très vite, il opère des missions de déminage et de destruction d'armes déclassées. C'est ainsi que dans les années 90, l'équipage se retrouve chargé de neutraliser un stock de 9450 grenades d'origine espagnole stockées sur le site pyrotechnique du Nardoué, à quelques kilomètres de Cherbourg. C'est lors d'une de ces opérations que survient le drame. Pourtant, le processus était bien rodé.
Le chargement s'est effectué vers un peu avant 9h, vers 9h, et ensuite on a appareillé vers la fosse Lévis.
Quand vous arrivez au niveau de la fosse, oui. Comment on se débarrasse des grenades ?
Alors, les pyrotechniciens ouvraient leurs caisses, manipulaient les grenades pour les mettre sur 2 rails, parce qu'il y avait un rail à tribord et à bâbord, et ils se débarrassaient des rails comme ça. Ouais.
Les grenades glissaient le long de ces rails jusque dans l'eau. Et elles explosaient après, une fois dans l'eau ?
Oui, mais par contre, il y avait plusieurs critères de sécurité qui faisaient que la grenade ne pouvait pas exploser. Donc on laissait la pyrotechnie se débrouiller avec ses grenades.
Capuchon enlevé, goupille retirée, profondeur d'immersion de la grenade, autant de conditions à réunir pour qu'une explosion se produise. Le 30 avril 1997, lorsque la Fidèle appareille pour une 6e opération, 5600 grenades espagnoles de type Laguna ont déjà été détruites. Cette fois, il y a à bord 5 conteneurs, 1440 grenades entreposées sur le pont à l'arrière et à l'avant du bateau, sous la responsabilité de 6 pyrotechniciens du site d'entreposage d'explosifs du Nardoué. Ils sont au plus près des grenades. 2 d'entre eux seulement ont survécu. Ça n'est pas le cas de Christian Pilon. Quelle était sa mission? Comment sa famille s'est reconstruite? Je cherche des réponses que sa veuve Brigitte m'apportera peut-être. Je suis en route pour Martinva, petite commune dans les bois, au sud de Cherbourg.
On vient de passer devant le panneau qui indique le Nardoué. C'est là que travaillait Christian Pilon en tant que pyrotechnicien. 27, voilà, c'est là.
Une maison en bordure de forêt, un joli jardin bien entretenu. Nous sommes chez Brigitte Pilon.
Bonjour,
Brigitte Pilon,
monsieur.
Bonjour.
Voulez-vous vous asseoir?
Oui. En 1997, Christian, le mari de Brigitte, avait 47 ans. Le 30 avril, sur la Fidèle, ce pyrotechnicien expérimenté supervisait les opérations de grenadage au plus près des explosifs.
Depuis quelques années, il faisait des éliminer des grenades pour aller au Fort Lévis pour les détruire. Et donc, je savais qu'à chaque fois, quand il faisait une mission et qu'il partait le matin de bonne heure, et que, voilà, il avait un ordre de mission pour aller. Et donc, ils sont partis comme d'habitude. Et à 10h30, il s'est produit, et voilà, ce grand truc, ce bateau qui s'est trouvé coupé en deux par les explosions des munitions qui étaient sur ce bateau.
Comment vous l'avez appris, vous, en fait, c'est la marine qui vous...
Pas tout à fait, parce que à l'époque, j'avais une sœur qui habitait l'Orient et qui écoutait la radio, et moi, j'étais dans mon commerce. Ma sœur m'appelle et me dit « Est-ce que Christian était parti ce jour-là ?» Ben, je dis « Oui !» Puis elle se met à faire « Ah !» pousser un cri, mais elle me dit « Écoute, le bateau a explosé !» Et donc j'ai attendu, j'ai voulu appeler des collègues qui n'étaient pas au courant parce que c'était très long. Et je l'ai su que dans l'après-midi, j'ai cru devenir folle parce que je me demandais ce qui m'arrivait. Et après, bien sûr, dans les jours qui ont suivi, vous savez ce que c'est que l'État, il y a eu la hiérarchie, alors du plus gradé jusque... Et puis pour me dire qu'on faisait des recherches, mais de toute façon... Je savais qu'on ne pourrait rien retrouver.
Parce qu'il était porté disparu, en fait.
Porté disparu, mais vous imaginez que quelqu'un qui se trouve auprès de centaines de kilos d'explosifs, je ne vous fais pas de dessin.
Non seulement c'est votre mari, c'est Christian qui...
Mais mon frère aussi.
Mais votre frère aussi.
Parce que mon mari, ce jour-là, ne devait pas y être.
Un Guy, ouais.
Et par contre, mon frère a été retrouvé. Il a été récupéré, je crois que c'est par un voilier anglais. Mais personne, juste une personne de la pyrotechnie responsable a pu l'identifier parce qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Donc on n'a pas eu le droit de le voir.
Son frère décédé, son mari disparu, Brigitte est anéantie, mais prise avec sa fille dans un tourbillon. Et bientôt, dans la nécessité de comprendre les causes du drame et peut-être d'identifier des responsabilités.
Ça n'aurait jamais dû se produire. Il y a eu des erreurs, mais bon... Voilà, le résultat était là quand même.
En fait, comme dit maman, nous, en fait, on s'est trouvés, mais prise entre le côté militaire, le côté pyro, enfin, etc. Toi, on te demandait d'écrire des lettres, on te demandait de faire ci. En fait, on était un peu marionnettes, quoi. Ce qu'on savait, c'est qu'oui, il y avait des fautes, qu'il y avait des choses qui étaient vraiment pas claires. Et c'est pour ça qu'après la cérémonie du 30 avril, maman et l'équipage du bateau avaient demandé à ce que ce soit en intimité.
Ben c'est surtout moi, j'avais demandé.
Ouais. Toi, tu le ressentais et tu me dis si je me trompe, il y avait des gradés, côté militaire, enfin, et entre guillemets, qui se montraient à cette cérémonie. Et en fait, c'était qu'une fois par an et après, il ne se passait rien, quoi. Ce côté-là, nous, on n'avait pas besoin.
En quittant Brigitte et sa fille, je mesure combien les victimes et leurs proches ont souffert dans ce dossier. Avant tout de la perte d'un être cher ou des conséquences physiques et morales des blessures. Mais aussi des difficultés à obtenir des réponses à leurs questions légitimes. Cet accident aurait-il pu être évité? Y a-t-il eu des fautes? Peut-on identifier des coupables? Après le drame, une information judiciaire contre X pour homicide involontaire et blessures involontaires est ouverte et confiée à un juge d'instruction de Caen. 15 ans de procédure judiciaire n'ont que partiellement apaisé les victimes. Parties chacune de leur côté avec leurs avocats respectifs, elles ont finalement confié leur dossier à l'avocat parisien Maître François Laforgue. Je décide de le contacter. Comme tous les protagonistes de ce dossier, il a été marqué par l'affaire de la fidèle.
Moi, j'étais très sensible à ce dossier et à la qualité humaine de ces personnes. Il y avait un esprit ni revanchard, ni de battre-monnaie, ni de quoi que ce soit de cet ordre. C'était vraiment des gens extrêmement dignes, que j'ai eu beaucoup d'honneur, de fierté à défendre.
L'une des difficultés du dossier, c'est que les victimes se partagent entre marins et pyrotechniciens. Elles n'ont pas le même statut. Tout cela complique et allonge les procédures. Elles aboutissent finalement à un non-lieu sur le plan pénal en octobre 2012, car on ne peut imputer des fautes à des personnes en particulier. Malgré tout, la justice admet la responsabilité de l'État à l'origine du drame. En 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaît une faute inexcusable de l'employeur, à savoir la direction des constructions navales, bref, l'État. Parallèlement, toutes les parties civiles obtiennent des indemnisations. Maître Laforgue, peut-on dire, après des années de démarches judiciaires, qu'il y a eu des fautes sur le plan de la sécurité ?
Oui, très clairement, mais c'est ce qu'a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô à l'époque, en retenant que d'autres méthodes étaient possibles. D'ailleurs, elles ont été mises en œuvre ensuite avec l'utilisation de robots qui existaient déjà au moment du drame, que la gabarre n'avait pas de système de compartimentage qui aurait pu permettre d'éviter le drame, que la densité et le nombre des grenades étaient trop importants pour pouvoir mener cette opération à bien, et qu'il n'y avait pas une prise en compte suffisamment importante de la dangerosité des grenades par les responsables de cette opération.
Est-ce que vous diriez, avec le souvenir que vous avez de cette affaire, que vous sentiez qu'elle marquait aussi ce territoire ?
Oui, oui, il m'a semblé que ce dossier était assez emblématique, qu'il y avait en quelque sorte une rupture de confiance avec les employeurs ou avec le ministère des Armées, et qu'il y avait un fort ressentiment à l'époque contre les responsables qui n'avaient pas suffisamment protégé leurs salariés ou leurs employés ou les militaires.
Ressentiment. Maître François Laforgue utilise ce mot qui m'est souvent venu à l'esprit en écoutant les récits des victimes. La justice est passée, il n'y a pas de coupable, mais ça n'empêche qu'il y a eu des fautes. Encore aujourd'hui, les anciens membres d'équipage comme Stéphane Marie ont la conviction que l'on a joué avec leur sécurité.
La plus grande faute de l'État, c'est de laisser faire, d'obliger à faire ce genre de mission à un équipage. Un équipage, alors que c'est très risqué, et ils en étaient bien conscients. C'est la multitude des décisions irresponsables qui a amené ce drame.
Au terme de ce récit, je ne peux m'empêcher de demander à Stéphane Marie comment il vit d'être revenu dans la marine, lui qui l'a quitté quelques années avant d'intégrer le cercle des officiers en tant que civil en 2003 et d'y continuer depuis sa carrière.
C'est ce avec lequel j'ai le plus de mal. Quand on a vécu ce que moi j'ai vécu, ou ce que nous on a vécu, l'équipage, je m'applique à respecter les ordres, mais c'est vrai qu'il y a des fois, ça, je pince les lèvres.
« 25 ans après le drame, 9 ans après les dernières décisions de justice, chaque 30 avril, les rescapés et les familles de victimes se retrouvent autour de la stèle du Cap Lévy. Quant aux grenades qui restaient à détruire, elles l'ont été à terre, ou plutôt sous terre, sur le site du Nardoué. Plus aucun personnel n'a été exposé au risque. Ce sont des robots qui ont pris le relais. »
Histoire salée. Le podcast mère de France Bleu Cotentin.
Vous pouvez à tout moment réécouter cet épisode d'Histoire salée sur l'application Radio France ou sur francebleu.fr. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux récits maritimes.